vous reprendrez bien un peu de science-fiction. Aujourd'hui, c'est fiction. Le vagabond cosmique.
Société nouvelle de robotique. Fondée en 1974, la SNR, Société Nouvelle de Robotique, est présente sur tous les mondes connus et à toutes les époques pour vous apporter son expertise en matière robotique. Notre domaine de compétence va de la conception et fabrication de robots avec ou sans intelligence artificielle à la récupération de modèles robotiques complexes en symbiose avec leur zone d'opération. Nous sommes également habilités dans la contre-mesure active de haute intensité pour vous aider à gérer les interactions inopinées et poussées que vous pourriez rencontrer avec matériel robotique autonome. Notre réputation dans le domaine du traçage logiciel, spatial et historique n'est plus à faire. Nous sommes particulièrement attentifs aux besoins de nos clients afin de leur éviter une trop grande gêne dans leur parcours entrepreneurial robotique. Notre savoir-faire vous permettra d'anticiper et, si le besoin s'en fait sentir, de pallier à toute déconvenue. Nous serions très flattés de vous compter parmi nos clients et d'entreprendre un partenariat prolifique pour tous.
Et voilà le fameux vagabond cosmique.
Ah oui, bel engin.
En effet. Il est impressionnant.
Mais question bête comme ça, là. Comment vous l'avez fait rentrer dans ce hangar? Parce que là, je vois pas de mécanisme pour ouvrir le toit.
Un magicien ne révèle jamais ses tours.
Certes, mais moi, comment je sors, moi?
Ne vous inquiétez pas. Il vous sera livré en orbite basse.
Trop aimable. Et combien ce tour de magie va me coûter?
C'est pour moi, c'est cadeau.
Vous êtes d'humeur généreuse, dites-moi.
Hey, vous êtes mon meilleur client. Les bonnes relations commerciales, ça s'entretient.
Comme vous dites.
Mais, dites-moi, vous allez le faire voler?
Bah, oui.
Avec vous dedans?
Bah, oui. Pourquoi?
Et la malédiction du vicomte, ça ne vous fait pas peur?
Moi, les histoires de fantômes, hein, machin, tout ça. Mais il y a...
Je vous sens perplexe. Il y a un souci?
Bah, maintenant qu'il est là devant moi, il me fait furieusement penser à un...
Ah non. Non. On ne dénigre pas le vagabond cosmique.
Je ne dénigre pas. Je dis juste que ça me fait penser à...
Arrêtez avec ça. N'allez pas comparer cette merveille avec une chose aussi vulgaire quand même.
Ce n'est pas lui faire offense que de dire qu'il a un aspect...
Bon, il suffit là, hein? Circulez. Vous indiquerez d'ici quelques jours, vous pourrez le récupérer. Non mais je te jure, on m'aura tout fait celui-là. Comparer le vagabond à... Ah.
Dans l'épisode précédent, je vous parlais du vicomte Isidore de la Malventrée et de sa rencontre avec Josip Roman. Mais... avant ce fameux dîner, quel a été le parcours d'Isidore? Le 25 novembre 2140, le vicomte Malthus de la Malventrée rencontre Marguerite Lemage lors d'un rendez-vous professionnel. La jeune femme ingénieure en structure spatiale recherche des sponsors pour concrétiser son mémoire de fin d'études. Celui-ci qui a pour titre de la sublimation du carbone 18 à la cristallisation en structure cohérente afin de conception neutre. Pour faire simple, elle a inventé une nouvelle méthode de fabrication d'engins spatiaux. Une révolution dans le domaine, mais qui ne convainc pour le moment personne. Ladite méthode étant en rupture avec les processus usuels et également d'un relent toujours présent de misogynie. Certaines choses ne changent pas. Mais le vicomte est séduit par le projet et par Marguerite. Le charme n'est pas réciproque, du moins au départ. Malthus va financer les recherches de Marguerite. Les jaloux diront que c'est pour conquérir la jeune femme. Ragot. Leur mariage aura lieu 5 ans, jour pour jour, après la première rencontre. Isidore naîtra 2 ans plus tard, le 13 mars 2147. Le lendemain de la certification du premier vaisseau, construit selon la méthode Leminge, Marguerite ayant souhaité garder son nom de jeune fille pour ses travaux. Ce sera peu de dire que le vaisseau est quasiment le frère jumeau d'Isidore. Le vaisseau sera baptisé Calliope, nom qui aurait été donné à l'éventuelle fille de Marguerite et Malthus. Marguerite a réellement et sincèrement aimé son fils, mais il n'était pas son absolue priorité. Sa passion sera toujours l'ingénierie spatiale. C'est tout naturellement que le jeune garçon va se tourner vers son père et suivre consciemment ou pas ses traces. Le vicomte de la Malventerie père est ce qu'on appelle à votre époque un aventurier. La fortune familiale aidant, il va accomplir toutes sortes d'exploits sur Terre et dans le système solaire. C'est des étoiles dans les yeux qu'Isidore va écouter son père raconter ses aventures dans lesquelles il va maintes fois frôler la mort. À cette époque, l'exploration spatiale privée est balbutiante. Les vaisseaux conçus par sa mère sont fiables, mais le vide spatial est rempli d'embûches et ne laisse aucune part à l'improvisation. Isidore, devenu un jeune homme, va lui aussi faire l'apprentissage du risque des voyages spatiaux. Au grand dam de son père, et de l'inquiétude certes sincère mais mesurée de sa mère. Cette dernière notera tout de même le talent de développeur de son fils pour ce qui est des réglages nécessaires pour des vaisseaux qu'il va utiliser. Et il deviendra le pilote d'essai officiel des vaisseaux conçus par sa mère. Il va même créer une sorte de parcours de certification dans le système solaire que chaque engin devra subir pour être déclaré bon pour le service. Ce processus est tellement exigeant que même les concurrents vont emprunter le entre guillemets, « parcours Isidore » pour valider leur propre réalisation. Le point critique de ce parcours est un passage à la plus grande vitesse possible auprès du Soleil. Plusieurs vaisseaux ne réapparaîtront pas après leur passage derrière le Soleil. En l'honneur des pilotes disparus pendant cette manœuvre, la sonde Solar Parker, lancée en 2018, sera reconvertie en un monument mémoriel. On lui adjoindra une plaque en tungstène où seront gravés les noms des malheureux. Sur cette plaque sera gravé le 14 juin 2183 le nom de Malthus de la Malventrée. Un mois plus tôt, le dernier vaisseau conçu par Marguerite sortait de l'atelier orbital de son entreprise. Après l'inspection pré-vol, Isidore va refuser catégoriquement de voler à bord de celui-ci. Selon lui, de nombreuses malfaçons flagrantes auraient été constatées et il aurait interdit quiconque de prendre les commandes de cette, je cite, « poubelle immonde ». À la suite de l'inspection, la réunion traditionnelle avec sa mère aurait été orageuse. Tout euphémisme pour ne pas dire cataclysmique. Marguerite, étant extrêmement exigeante lors de la fabrication de ses vaisseaux, n'aimait pas les critiques. Ce n'est pas qu'elle avait une grande idée d'elle-même ou de son travail, mais si on commençait à dénigrer ses vaisseaux, c'était un peu comme critiquer son enfant. Alors que son fils biologique dise que son dernier nid était mal foutu, c'en était trop. Je cite sa mère, « Comment ce petit merdeux pouvait lui dire à elle comment fabriquer des engins spatiaux ? Ce casse-cou d'opérette, cet aventurier à la petite semaine, n'était bon qu'à frimer en sillonnant le système solaire. Si c'est comme ça, il ne pourrait plus jamais tester les merveilles qu'elle lui faisait tester. » C'est ainsi que la collaboration mère-fils finira. Isidore déclarera publiquement que personne ne serait assez dingue ou inconscient pour oser monter à bord de cet engin et ne serait-ce que lui faire quitter l'orbite terrestre. un homme osera le faire. Malthus. Malgré les supplications de son fils, il montera à bord du vaisseau. Alors, pourquoi il a fait ça? Bon, il en avait déjà fait auparavant, mais c'était il y a longtemps et il n'était pas reconnu pour cet exercice. Il était un pilote d'essai moyen. Sauf que ça n'existe pas des pilotes d'essai moyens. On est bon, voire excellent, ou on ne l'est pas. Des rumeurs auraient couru comme quoi il aurait voulu, en faisant ça, gagner des points auprès de son épouse. Leur union battait de l'aile, et éperdument amoureux, il avait pensé qu'une telle marque de courage aurait ravivé la flamme conjugale. C'en était trop pour Isidore. Sa mère, pas très proche de lui, mais dont il respectait le travail et l'engagement professionnel, avait bâclé son dernier vaisseau. Son père, qu'il avait toujours porté au nu, qu'il avait suivi dans tant d'aventures. Un père avec qui il avait établi une complicité si intense. Un père qui, pour sauver son mariage bancal, allait faire fi de ses recommandations et se précipiter vers une mort certaine. Le chagrin laissera place à un terrible besoin de vengeance. Isidore va fonder sa propre entreprise de conception et de fabrication de vaisseaux spatiaux privés, la Société Saint-Christophe. Pour cela, il va embaucher les meilleurs ingénieurs de la place. Autant les éléments les plus prometteurs fraîchement sortis des écoles que les plus chevronnés au sein de l'entreprise de sa mère. La fortune léguée par son père lui permettant de dérouler des pondeurs pour les appâter. La mère et le fils vont dorénavant se livrer bataille. Ce sera à qui aura le projet le plus ambitieux, le plus fou. Aidé en cela par des clients richissimes et à l'ego hypertrophié qui vont étendre le conflit familial dans des sphères de la haute société. Cette guerre familiale durera, comme ça, pendant une dizaine d'années, jusqu'au décès de Marguerite Leminge de la Malventrée. Tellement obnubilée par la compétition qu'elle menait avec son fils, elle ne fera guère attention à des alertes concernant sa santé. À cette époque, aussi évolué que fut le monde médical, si les patients ne prenaient pas soin d'eux, personne ne le ferait à leur place. Surtout dans le cas d'une personne qui s'était éloignée de sa famille et dont les seuls contacts étaient dans le cadre professionnel, à savoir ses collaborateurs et les clients. Le dernier couvage de la part de Marguerite envers son fils se fera de manière posthume. Elle lèguera son héritage à diverses œuvres de charité, son entreprise à ses collaborateurs et une seule chose à son fils. Le vaisseau qui coûta la vie à son père. Mais de quel esprit tordu a pu sortir une telle idée ? À quel point elle pouvait détester son fils pour lui léguer la seule chose qui pouvait l'atteindre autant. Isidore, à la lecture du testament, ne broncha pas, mais se précipita dans le bureau d'études de son entreprise et ordonna qu'on en ajoute au vaisseau maudit un système de largage extérieur. Mécanisme étrange pour un vaisseau de croisière qui n'a normalement aucune visée technique. Les ingénieurs lui faisant remarquer le côté étrange et hétérodoxe du concept, verront le vicomte entrer dans une fureur terrible. La seule de toute sa carrière, et plus personne n'ose le contredire, tant il sera véhément dans cet accès de colère. Mais pourquoi ce mécanisme alors? De la vengeance pure, simple, bête et méchante. Le fameux vaisseau sera programmé pour frôler le soleil au maximum de ses capacités de résistance. Et lorsqu'il sera au périgée de sa trajectoire, il larguera un objet. Vous l'aurez peut-être deviné, l'objet en question étant le cercueil de sa défunte mère. En totale contradiction avec ses dernières volontés, elle avait demandé à être enterrée dans le cimetière de Jarnac, en Charente, d'où était originaire sa famille. Les protestations de l'exécuteur testamentaire furent de principe. Le vaisseau, de retour de son funèbre périple, restera stationné sur les docks de l'entreprise de Feu Marguerite pendant quelques semaines. Devant l'insistance des nouveaux patrons de l'entreprise de sa génitrice pour récupérer l'encombrant Leg, Isidore va tout simplement racheter l'entreprise et ordonner que le vaisseau reste là. Longtemps. Plusieurs années vont passer ainsi, voyant la boîte d'Isidore se développer régulièrement. Le vicomte va alors alterner entre son poste de patron slash vendeur de chocs de vaisseaux et ses expéditions dans le système solaire. Expéditions évidemment menées à bord d'engins construits par Saint-Christophe, tant qu'à jouer les explorateurs, autant de se faire un peu de pub en même temps. Mais il y a toujours quelque chose qui turlupine Isidore. Un sentiment d'inachevé, d'une boucle qui ne demande qu'à être bouclée. Comme si quelque part elle attendait quelqu'un ou quelque chose pour qu'il puisse s'accomplir parfaitement. L'évidence de cette sensation va le frapper au retour d'une de ses aventures. De retour de Saturne, dont il a exploré les anneaux, un des spots les plus courus du système solaire, son vaisseau sera heurté par une micrométéorite. Un peu de casse, mais rien de bien grave. Mais il faut tout de même ramener au plus tôt le vaisseau endommagé. Et, hasard des disponibilités des docks pour les réparations, il devra se rendre sur l'un de l'ancienne boîte de sa mère. En approche du dock, il sera ébloui par un flash provoqué par le revêtement chromé d'un vaisseau. Vaisseau qu'il ne connaît que trop bien. Le vaisseau qui lui aura enlevé son père et servi de corbillard pour sa mère. Ce vaisseau qui aura créé un vide dans le cœur d'Isidore. Comme une écharde glaciale qui jamais ne se réchauffera, qui sera toujours là, pour rappeler combien l'absence de la figure paternelle sera conjuguée à la trahison maternelle. À peine débarqué, il demande le transfert dudit vaisseau vers son atelier. Il va alors faire travailler ses meilleurs ingénieurs et ouvriers pour faire de l'engin le meilleur qui sera sorti de son entreprise. Le vaisseau va être entièrement désossé pour le débarrasser de ses faiblesses d'origine. Tout sera revu, corrigé, amélioré. Pour en faire l'embarcation spatiale la plus fiable qui n'ait jamais été réalisée. Mais pas seulement. La plus performante, la plus rapide, la plus confortable, la plus belle. Au fait, je vous ne l'ai pas décrite. Son style est digne de vos films de science-fiction des années 50. Le profil évoque une balle de fusil, même si certaines mauvaises langues parlent plutôt d'un suppositoire. Il y a à sa base 4 ailettes qui se finissent chacune par un moteur cariné. Elles mesurent 50 mètres de long, disposent de 4 chambres, d'un salon d'observation, d'une salle de jeu et d'une cuisine digne d'un restaurant étoilé. Et tout cela dans un luxe sobre mais affirmé. Les rares personnes invitées à bord parleront d'un décor digne du Nautilus du capitaine Nemo. De l'extérieur, il n'y a eu aucun changement lors de la refonte. Toujours le même revêtement chromé et lisse qui ne semble disposer d'aucune ouverture. C'était un souhait de la mère d'Isidore pour la première version de la machine. Aucun élément ou aspérité ne devait être visible sur la carlingue. Il aura fallu aux ingénieurs de l'époque développer des trésors d'inventivité pour que les portes, une fois fermées, disparaissent dans la peau du vaisseau. Même les hublots, pourtant présents en nombre, sont recouverts d'un film métallique qui les rend totalement invisible depuis l'extérieur. L'engin dégage une impression de vitesse par son aspect profilé, bien qu'il ne navigue que dans le vide spatial. C'était un choix délibéré de sa conceptrice, lui donner un style unique qui ne sera jamais égalé par la suite. Une question s'est posée à la fin de sa réflexion, tant les modifications ont été nombreuses. Fallait-il lui garder son nom de baptême original, Melpomen, ou lui donner un autre nom, pour symboliser un nouveau départ. Isidore n'hésitera pas longtemps. Le vaisseau répondra désormais au nom de Vagabond Cosmique. Surnom donné à son père par son grand-père au vu de ses diverses expéditions dans le système solaire. C'est le cœur léger qu'il prit les commandes pour lui faire le parcours Isidore, non sans avoir fait sa traditionnelle et intransigeante inspection pré-vol. Parcours qui se fera sans le moindre problème. À partir de ce jour, il n'effectuera aucun voyage dans un autre vaisseau que le Vagabond.
hormis les navettes entre la Terre et son chantier orbital. Pour fêter le vol inaugural du Vagabond, un de ses vieux amis, Ferdinand Roman, l'invitera dans sa résidence de Nitra le 4 juillet 2201. Cette date sera importante pour lui, mais aussi pour Josip, le fils de son vieil ami. Le jeune homme sera fasciné par l'histoire du Vagabond, et comme je vous l'ai dit, cela marquera un tournant dans sa vie. Isidore également notera l'engouement du garçon et se mettra à suivre son parcours de près. La suite de l'histoire, vous la connaissez, l'arrivée de Josip à Saint-Christophe, le début d'une collaboration qui fera des étincelles. Josip a eu droit à une croisière dans le Vagabond cosmique pour le premier anniversaire de son entrée dans l'entreprise. Il sera marqué par l'expérience, mais aussi par l'atmosphère qui règne à bord, comme une présence bienveillante qui veille sur ses occupants. Sentiment étrange pour un homme aussi cartésien. Et c'est à la suite de ce voyage que lui viendra l'idée du moteur à flux subductif variable. Lors du voyage, le vicomte et lui avaient passé une soirée entière à refaire le monde et à échanger sur des concepts révolutionnaires, concrets ou parfois totalement déments. Et ils avaient commencé à imaginer un nouveau système de propulsion. La soirée avait été arrosée. Isidore avait oublié, pas Josip. Et comme une obsession, il s'est jeté à corps perdu dans la concrétisation de ce nouveau projet. Il faudra tout de même 2 ans de travail à Josip pour en venir à bout. 2 ans de travail fait sous le manteau, le soir ou le week-end. 2 années à dissimuler ses avancées à son patron. L'ingénieur ne voulait pas montrer un système qui ne serait pas en cours de finalisation. Déjà pour ne pas subir l'échec public, au cas, certes improbable mais non nul, où son invention serait un fiasco. Tout le monde a sa part d'ego, fût-elle petite. Mais surtout parce qu'Isidore est un impatient notoire, et dès qu'une idée jaillit, il faut la mettre en pratique très rapidement, sans souci des contingences techniques. Certes, côtoyer Roman pendant toutes ces années lui avait appris la patience, mais chasser le naturel, vous voyez. C'est un des rares assistants de Josip qui vendra la mèche bien involontairement. Dans l'heure qui suivit, le vicomte se rua dans le bureau de Josip, à la fois partagé par l'énervement de ne pas avoir été mis au courant plus tôt et la joie de l'annonce de la création d'un nouveau moteur. À cette époque, les vaisseaux rivalisaient en luxe et en confort, mais le domaine de la propulsion n'avait pas connu d'évolution majeure. Les voyages hors du système solaire étaient rares car chronophages, du fait de la faible entre guillemets vitesse possible. C'est un nouveau domaine d'exploration qui s'ouvrait si le système miracle de Josip était fidèle aux prévisions. Les prises de bec étaient rares entre les deux hommes, mais celle qui suivit l'arrivée du patron dans le bureau de l'ingénieur fut qualifiée par les assistants témoins de la scène de choc des titans. Isidore, qui s'égocillait pour avoir un engagement de Josip quant à la disponibilité du fameux moteur, ce dernier qui s'époumonait en expliquant que lorsqu'on invente un système révolutionnaire, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. À dater de ce jour, leurs rapports seront un poil plus rugueux. Même l'annonce par Josip de la finalisation du moteur ne fit que peu baisser l'animosité entre les deux hommes. D'autant qu'Isidore avait réservé une énième surprise à Josip. Le nouveau moteur serait installé sur le Vagabond cosmique. Les multiples avertissements de Roman ne vinrent pas à bout de la détermination du vicomte. Un nouveau propulseur est testé en temps normal sur un mulet. Un vaisseau sans équipement, sans confort et sans personnel. De guerre lasse, il supervisa l'installation. Le dernier coup de butoir de leur collaboration fut donné par Isidore quand il annonça que ce serait lui qui mènerait le fameux parcours autour du soleil. Les innombrables mises en garde ne servirent à rien. Le seul point où le patron cédera, c'est un galop d'essai dans la proche banlieue terrestre en mode automatique. Mais ce serait bien lui qui le pilotera pour son premier vol habité. Il a, comme une provocation, invité Josip à participer à ce vol. Mais ce dernier ne se donna même pas la peine de répondre. Le vol tant attendu eut lieu le 30 août 2216. La suite, vous la connaissez. Enfin, jusqu'à un certain point. Je vous avais dit que Roman était parti à sa recherche et était revenu bredouille.
et que personne ne revit le vicomte, ni le vagabond. Enfin... Le 15 septembre 2402, le système de veille dans la petite ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter va détecter un objet arrivant à très grande vitesse. Objet qui va graduellement ralentir en s'approchant de la Terre, restant muet aux appels radio. Lorsqu'il diminua assez sa vitesse pour qu'on puisse en discerner l'immatriculation, il fallut aller chercher dans les archives du contrôle spatial terrien pour l'identifier de manière certaine. Et comme à la parade, le vaisseau revenu du passé accosta le quai de ce qui fut, il y a bien longtemps, l'entreprise Saint-Christophe. Comme le stipule la procédure de tout voyage spatial, le pilote automatique doit être capable de ramener son vaisseau sans intervention humaine si jamais l'équipage est en danger. Le vagabond cosmique est revenu vide. Dans les enregistreurs de vol, on a pu suivre les faits et gestes du vicomte dans le vaisseau, jusqu'à son passage près de Mars, et puis plus rien, au moment même où les communications étaient coupées avec la Terre. Les navigateurs de l'espace ont hérité des superstitions de leurs aïeux des mers, et le vagabond fut considéré comme maudit. Il restera à la même place environ pendant 20 ans, et disparaîtra un jour comme par magie. Ce n'est pas vraiment par magie qu'il se retrouve devant moi en cet instant. Mais que voulez-vous ? Les voies du Seigneur sont impénétrables. Et il me tarde vraiment de le faire à nouveau voler.